Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bien, bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue à ce dernier volet de mon cycle de cours consacré à l'école, dans le cadre de l'enquête que j'ai commencée il y a maintenant déjà 7 ans, sur les mutations à l'œuvre à la fin de l'Antiquité dans le domaine de la culture écrite, enquête que j'ai intitulée « Le calame et la croix », puisque derrière la croix se cache évidemment le christianisme, qui est probablement la révolution la plus spectaculaire qu'a connue cette période, en tout cas dans le domaine culturel. Alors l'école, en tant qu'elle forme ceux qui sont amenés à jouer d'une façon ou d'une autre un rôle culturel dans la société pour laquelle elle œuvre, autrement dit, en tant qu'elle se doit de répondre aux besoins, à la demande de cette même société, ne pouvait être qu'une pièce maîtresse de notre réflexion. Donc l'école, après avoir passé en revue les trois niveaux théoriques qui constituent le parcours scolaire d'un élève à la fin de l'Antiquité, celui du grammatiste, grammatistesse, celui du grammairien, grammaticos, et celui du sophiste ou rhéteur, niveau dont nous avons vu, en tout cas pour les deux premiers, qu'ils s'interpénétraient souvent dans la réalité de tous les jours. Et après avoir montré comment ce cursus millénaire aux méthodes pédagogiques anciennes et éprouvées avait évolué sous l'influence du christianisme, nous nous sommes intéressés aux écoles en milieu monastique, une des spécificités de l'Antiquité tardive, et puisque la société égyptienne était profondément bilingue, nous sommes intéressés aux écoles coptes, écoles monastiques, écoles coptes. Ce sont deux réalités dont nous avons vu qu'elles constituaient souvent les deux facettes de la même pièce, pour autant que notre documentation émane, le plus souvent à cette époque, des monastères où le copte était la langue naturellement majoritaire. Or, notre enquête, à travers les papyrus qu'ont laissé les écoles monastiques et celles de langue copte, s'est constamment heurtée à une difficulté d'interprétation. De nombreux exercices d'écriture étaient susceptibles soit de relever d'un enseignement de l'écriture dispensé à un écolier par le grammatiste, soit d'un enseignement, par exemple de la calligraphie, s'adressant à de futurs copistes qui dominent déjà bien l'écriture, mais qui cherchent à maîtriser les styles d'écriture propres à la copie des manuscrits. Et de fait, les savants modernes se sont partagés entre les deux explications, ce qui témoigne du travail qu'il reste à faire pour mieux caractériser ces textes, et ce qui témoigne aussi et surtout de la méconnaissance dans laquelle nous nous trouvons quant à l'enseignement professionnel et aux spécificités qui ont pu être les siennes dans l'Antiquité tardive. Par ailleurs, ces mêmes exercices d'écriture font souvent place non à des textes littéraires, qu'ils soient de profanes comme Homère ou qu'ils soient chrétiens comme la Bible, mais à des textes de la vie de tous les jours comme les lettres. A-t-on affaire alors à un enseignement qui cherche à former des élèves qui deviennent le plus vite possible autonomes dans le domaine de l'écrit ou à des apprentis secrétaires qui seront amenés à rédiger des lettres pour le compte d'un particulier ou pour le compte d'une administration? Le premier cas nous ferait toucher du doigt un phénomène qu'on pourrait qualifier de pragmatisation, voire de professionnalisation de l'enseignement scolaire, tandis que le second relève d'un enseignement professionnel proprement dit. Ces deux cas, d'ailleurs, ont pu très bien cohabiter. Bref, nous ne pouvions pas finir ce cycle sur l'école sans nous attaquer au problème de l'enseignement professionnel. Il y a d'autant plus d'urgence à le faire que l'abondante bibliographie sur l'enseignement, qui n'a cessé d'ailleurs de croître ces dernières années, ne s'intéresse qu'à l'enseignement généraliste, selon la conception classique que s'en faisaient les anciens, avec ces trois cycles que je vous ai rappelés tout à l'heure et les méthodes afférentes à ces trois cycles. Comme si l'enseignement spécialisé échappait au domaine de l'enseignement. Et depuis, les monographies générales sur l'enseignement, celles célèbres que j'ai eu l'occasion souvent de citer, d'Henri-Renée Maroux, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, dont la dernière édition revue par l'auteur date de 1964, et plus récemment celle de Jan Stenger, Education in Late Antiquity, Challenges, Dynamism and Reinterpretation, qui couvre la période allant de 300 à 550, publiée à Oxford en 2022. Donc, depuis ces monographies jusqu'aux ouvrages consacrés à l'enseignement plus spécifique de l'Égypte, celui évidemment de Raffaella Cribiore, Writing Teachers and Students in Greco-Roman Egypt, publié à Princeton, à Atlanta en 1996, et de la même savante Gymnastics of the Mind, Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, publié à Princeton en 2001, eh bien, l'éducation professionnelle n'occupe que quelques lignes, en passant, quand elle n'est pas totalement ignorée. Ce silence est plus qu'étonnant. Si certains chercheurs affirment, je mets la citation à l'écran, qu'il n'y avait pas d'école professionnelle dans l'Empire romain, d'autres reconnaissent l'ignorance qui est la nôtre en la matière. Ainsi, au sujet des juristes, un collègue conclut son étude sur la façon dont on se formait au droit en avouant que, et je le cite, vous avez le texte original en anglais à l'écran, il conclut « Nous n'avons pratiquement aucune idée de la manière dont ils étaient formés. Auto-formation à partir de textes juridiques disponibles, apprentissage à l'ancienne, études dans des écoles moins prestigieuses. On peut supposer qu'on a eu recours à toutes ces options, mais nous ne pouvons pas déterminer avec précision comment et dans quelles proportions. » On pourrait étendre ce constat à d'autres spécialités. Alors, je vous propose, cette année, de combler cette lacune criante de la recherche en explorant les modalités de formation des professionnels de l'écrit, autrement dit, l'enseignement professionnel menant à des métiers relevant des arts libéraux, pour reprendre la nomenclature qui bénéficie d'une longue tradition, d'abord grecque, sous le nom de Enkuklios Paideia, enseignement général, mais on trouve aussi dans les textes grecs l'adjectif Eleutheria, pour désigner les disciplines libérales, qui a été traduit en latin par Artes Liberales. Alors ces arts libéraux comprenaient trois arts, trois technai, trois arts littéraires, la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et quatre arts scientifiques, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, la musique, cela selon une liste qui se stabilise au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui connaîtra un grand succès au Moyen-Âge carolingien sous la forme du trivium et du quadrivium. Alors, de ces arts libéraux procèdent des professions qui s'opposent aux métiers artisanaux jugés vils et indignes d'un homme libre, comme le rappelle Cicéron. Et j'aurai l'occasion de vous citer ce passage plus tard, et ce en vertu d'un préjugé sur lequel donc je reviendrai plus longuement la semaine prochaine. Laissant de côté l'enseignement artisanal, nous limiterons notre enquête aux formations donc conduisant, je l'ai dit, à des professions liées à l'écrit, qu'elles sollicitent l'univers des lettres ou celui des chiffres. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en grec, les chiffres s'écrivent aussi avec des lettres. Alpha égale 1, bêta égale 2, etc. Les différents types de scribes ou secrétaires donc feront partie des personnages sur lesquels nous enquêterons tout au long de cette année, les différents types de scribes ou de secrétaires, les copistes de livres, les rédacteurs de documents juridiques, les contrats, que sont les notaires, les intendants qui gèrent les activités économiques et contrôlent les comptes d'exploitation privée, collective ou publique. Bref, tous les cadres des administrations, des établissements religieux, qu'il s'agisse d'églises ou de monastères, ou de grands domaines. Alors, cette exploration sera l'occasion de creuser le concept d'enseignement professionnel et les implications qu'il entraîne. Alors, je préfère éprouver cette notion d'après la documentation même et la clarifier au fur et à mesure qu'elle se dévoilera plutôt que de vous asséner dès maintenant à un examen théorique de la question déconnectée des réalités que nous allons petit à petit découvrir ensemble. Et vous verrez que cet enseignement professionnel est souvent bien éloigné de ce que nos conceptions modernes nous incitent à imaginer. Mais avant de combler cette lacune de la recherche, il nous faut nous interroger sur la raison pour laquelle ce sujet est encore en friche. Je parlais à l'instant d'un étonnant silence, de la recherche moderne. Alors volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient, ce silence a de fortes chances de n'être pas contingent et pourrait bien tenir aux conditions historiques et intellectuelles dans lesquelles cet enseignement s'est développé dans l'Antiquité, tout autant qu'aux préjugés ou aux limitations propres à la recherche moderne. Il faudra aussi nous interroger, nous, chercheurs d'aujourd'hui. Alors commençons par faire parler ce silence plus qu'assourdissant. Alors, outre qu'il n'a guère fait l'objet d'un discours et d'une réflexion de la part des anciens, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, contrairement à l'enseignement généraliste, eh bien, l'enseignement professionnel n'est pas seulement absent des textes. Il est matériellement invisible et se dérobe à quiconque essaierait de le cerner dans son organisation, dans les lieux où il a pu se déployer. Et en cela, il vous rappellera ce que je disais de l'école en général lorsque j'ai commencé ce cours en 2023. Souvenez-vous, nous avions vu qu'il n'existait presque aucune trace archéologique d'école qui soit certaine, à l'exception des auditoria, des salles de cours d'Alexandrie pour l'enseignement supérieur, et de l'école trouvée à Meïda, dans les oasis, pour l'enseignement primaire ou secondaire. Et j'avais alors conclu à la volatilité du fait scolaire. La situation est pire encore avec l'enseignement professionnel. Plus encore que l'enseignement scolaire, celui-ci est frappé du sceau de l'informel. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait pu avoir des écoles par filière abritée dans des locaux dédiés. Il y a fort à parier que dans la plupart des cas, la formation était dispensée dans un cadre familial. Et en vertu de l'adage « tel père, tel fils », les métiers se perpétuaient de père en fils et ce dernier apprenait son métier en regardant son père ou un autre membre de sa famille. C'est une situation dont témoigne l'écrivain Lucien de Samosate au IIe siècle après Jésus-Christ, dans un écrit intitulé « Le songe ou la vie de Lucien, écrit qui, tout autobiographique qu'il est, n'en est pas pour autant dénué de l'humour et de l'originalité qui caractérise l'art de cet écrivain. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le début de ce récit qui témoigne de la façon dont on entrait dans la vie professionnelle et qui, par sa dimension, vous allez voir, psychologique et la vivacité de ses notations nous donne à saisir l'état d'esprit de celui qui vivait ce moment qui, évidemment, dans sa vie, était décisif. Alors, je vous lis la traduction qui a été donnée par la vieille traduction de Chambry qui a été révisée et annotée par Alain Billot et Evelyne Marquis. Comme je venais de quitter l'école, donc on est au tout début du récit, Lucien parle. Comme je venais de quitter l'école, ayant atteint l'âge de l'adolescence, mon père tint conseil avec ses amis sur le métier qu'il devait me faire apprendre. La plupart furent d'avis que celui des lettres, et alors le texte grec utilise le terme de paideia, que j'ai souvent cité, que j'aurai l'occasion souvent d'utiliser tout au long de cette année, la plupart donc furent d'avis que celui des lettres demandait beaucoup de peine et beaucoup de temps, des dépenses considérables et une fortune brillante. Or, la nôtre était médiocre et réclamait un prompt secours. Si, au contraire, j'apprenais un de ces métiers naturels, manuels, pardon, qui étaient les leurs. Et alors, le texte grec utilise un terme très intéressant sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Pour l'instant, essayez de vous en souvenir. Hein, il dit techné ton banoson, le métier des artisans, banosos. J'en reparlerai. Donc, si au contraire, j'apprenais un de ces métiers manuels qui étaient les leurs, tout d'abord, il me procurerait tout de suite à moi-même de quoi me suffire, et je ne serais plus grand comme je l'étais à la charge de mes parents. Enfin, avant longtemps, je réjouirais le cœur de mon père en lui apportant au fur et à mesure ce que je gagnerais. On met ensuite en délibération une autre question. Le choix d'un métier qui fut le meilleur et le plus facile à apprendre, qui convainc à un homme libre. Cette notion d'homme libre est très importante, évidemment, pour les Grecs. Un homme libre qui exigea peu de frais d'installation et fournit un revenu constant. Comme les uns prenaient un métier, les autres un autre, selon leur goût ou leur expérience, mon père, tournant les yeux vers mon oncle maternel, qui assistait au conseil et qui, excellent sculpteur, passait pour un artiste des plus renommés dans l'art de tailler le marbre, dit « Nous n'avons pas le droit de donner la préférence à un autre métier quand tu es là. Emmène-le donc, dit-il en me montrant, et quand il sera chez toi, apprends-lui à devenir un bon tailleur de pierre, un bon ajusteur, un bon statuaire. C'est un métier où il peut réussir aussi, avec l'adresse naturelle que je lui connais. » Ce qui lui faisait croire, reprend Lucien, ce qui le faisait croire, c'est que je m'amusais avec de la cire. Quand l'école était finie, je grattais la cire, je modelais des bœufs, des chevaux et ma foi, même des hommes, et j'attrapais la ressemblance au jugement de mon père. Ce qui me valait des coups de la part de mes maîtres, me valait à présent des louanges pour mes heureuses dispositions et l'on fondait sur moi les plus belles espérances. On comptait bien, d'après mes talents à modeler, que dans peu de temps, je saurai le métier. Quand on jugea que le moment était venu de commencer mon apprentissage et qu'on m'eut remis entre les mains de mon oncle, je ne fus point fâché, ma foi, de mettre la main à l'œuvre. Au contraire, il me semblait que ce serait pour moi un charmant amusement et que je me ferais valoir parmi mes camarades si l'on me voyait sculpter des dieux, fabriquer de petites statuettes pour moi-même et mes meilleurs amis. Mais il arriva dès l'abord ce qui arrive ordinairement aux débutants. Mon oncle, m'ayant donné un ciseau, me dit de tailler doucement une tablette qui se trouvait au milieu de son atelier, en ajoutant le mot connu, « chose commencée est à moitié faite ». Mais dans mon inexpérience, je donnai un coup de trop sec et la tablette se cassa. Mon oncle, en colère, prit un bâton qui se trouvait là et m'initia à son art d'une façon qui n'était ni douce ni encourageante, et c'est par des larmes que je préludais dans la carrière. M'échappant alors de l'atelier, je retourne à la maison, sans cesser de sangloter et les yeux pleins de larmes. Je raconte l'histoire du bâton en montrant les meurtrissures. Je me plains de l'extrême brutalité de mon oncle, en ajoutant qu'il ne m'a traité ainsi que par jalousie, de peur que je le surpasse dans son art. Ma mère, indignée, fit à son frère force reproche. La nuit survint, je m'endormis encore en larmes, et songeant toujours au bâton. Alors, comme Lucien, eh bien, de nombreux jeunes apprenaient leur métier en famille, se formant ainsi dans les lieux mêmes où le parent exerçait. C'est ainsi que, récemment, on a proposé d'identifier deux notaires de l'Onxyrhynchos byzantine, hein, Philoxène et Victor, comme père et fils, du fait même des spécificités qu'ils partageaient, comme l'inclusion d'une date dans leur signature, hein, techniquement les complétions que le notaire met en fin de document, et du fait que le second était fils d'un Philoxène. On pourrait multiplier les exemples de scribes ou de notaires exerçant leur métier de père en fils et qui se sont formés sous la houlette de leur père ou d'un parent, la même où ceux-ci travaillaient. C'est donc a priori dans les bureaux administratifs ou notariaux qu'on serait tenté de chercher nos apprentis secrétaires ou notaires. C'est dans les scriptoria, c'est-à-dire les ateliers de copistes, qu'on a des chances de trouver nos apprentis copistes. Autrement dit, il faut renoncer à retrouver des traces archéologiques de ce type d'enseignement. Nous aurons l'occasion de rencontrer dans quelques textes de véritables écoles dévolues à des formations professionnelles. Rarement, nous le verrons. À l'instar de cette école de sténographie fondée par Protogène au IVe siècle, qui, nous raconte l'historien de l'Église Théodoré de Cyre, je le cite, « ayant trouvé un lieu adéquat, en fit une école et un lieu pour les pédagogues ». Là, donc, on a vraiment un bâtiment, une école qui est consacrée à cet enseignement de la sténographie. Mais c'est là un exemple plutôt rare qui ne nous permet cependant pas de comprendre les spécificités des écoles professionnelles et d'en dresser une typologie. Quand ils se dévoilent comme des entités à part entière, eh bien, ces lieux de formation se présentent comme des écoles de type classique et à l'instar des écoles généralistes, classiques, primaires, secondaires, etc., échappent à toute investigation qui viserait à se les représenter de façon plus concrète. Alors, à défaut de lieux, pouvons-nous nous faire une idée plus claire des acteurs de cet enseignement ? Alors, la relation entre maître et apprenti pouvait faire l'objet de contrats, de transactions écrites, susceptibles de livrer des informations sur ses acteurs, âge et situation sociale de l'élève, d'après celle de son père ou tuteur, qui apparaît comme une des parties du contrat, qualité et situation sociale du maître, qui constitue l'autre partie, durée et organisation de l'enseignement professionnel. Il se trouve que les papyrus ont livré un grand nombre de contrats d'apprentissage ou de formation qui étaient appelés en grec des didaskalikai, didaskalike, pluriel didaskalikai, qui vient du verbe grec didasko, enseigner. Ces contrats ont fait l'objet d'une mise au point en 1995 de la part de Marco Bergamasco, qui en rassemble le corpus, qui en dresse la typologie et le formulaire, et qui en étudie les aspects socio-économiques. Alors, à l'époque où Bergamasco a écrit cet article, ces contrats étaient au nombre de 42 pour toute la période gréco-romano-byzantine. Malheureusement, leur nombre décroît drastiquement après le IIIe siècle, comme vous le voyez sur ce schéma, enfin sur cette liste. Il n'y a plus que trois didascalicae pour la période qui nous intéresse. En outre, il s'agit presque toujours de contrats d'apprentissage d'un métier vraiment purement artisanal. La majorité tourne autour du tissage, gerdiake techné, de la broderie, tonne plumarison techné, ou le cardage de la laine, cténistique techné. Les autres métiers qu'on rencontre dans ces didascalicae sont la maçonnerie, évidemment, oikodomike techné, l'art de construire, mot à mot, la vannerie, psatoplokike techné, la dinandrie, calcotupike techné, la fabrication des clous, et oui, il y avait des spécialistes de clous et des apprentissages à la fabrication des clous, elokopike techné. Seuls trois de nos didascalicae concernent des professions qui n'appartiennent pas à l'artisanat proprement dit ou aux travaux manuels. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion d'artisanat et de travail manuel. Ces trois, ce sont la médecine, Iatrike techné, c'est d'ailleurs le plus ancien, la plus ancienne didascalique que nous ayons, la pratique d'instruments de musique, en l'occurrence de la flûte, le contrat parle de olein, de jouer de la flûte, et la sténographie, justement, la sténographie, c'est-à-dire, dans le contrat, il est question de former un séméiographos, un sténographe. Le contrat d'enseignement de la sténographie, alors je devrais plutôt utiliser le terme technique qu'on trouve dans les papyrus grecs qui est tachygraphos, la tachygraphie. J'aurai l'occasion de revenir sur cet art de la tachygraphie. Le contrat d'enseignement de la tachygraphie est le seul qui relève des métiers de l'écrit et entre dans le cadre de mon investigation, mais il date du Haut Empire. Alors, il mérite cependant d'être lu car il vous donnera une idée de la façon dont s'organisait contractuellement une formation professionnelle. Il s'agit d'un papyrus qui a été trouvé à Oxyrhynchos, hein, cette cité du nord de la Moyenne-Égypte. C'est le numéro 724 de la série des papyrus d'Oxyrhynchos. Alors, vous avez le texte grec à l'écran, je vous en donne aussi une traduction. Panécotès, appelé aussi Panarès, ex cosmète. Alors, le cosmète, c'est celui qui est en charge de l'accession des jeunes et faibles à la jouissance de leurs droits civiques. Donc, ex-cosmète de la cité des Oxyrhynchites, représenté par son collègue, Gemellos, et donc il s'adresse au tachygraphe Apollonios, salut. Donc là, vous avez un début de contrat typique, hein, Kyrene. Bon. Je t'ai remis mon esclave, Kairamon, pour qu'il apprenne les signes. Alors évidemment, il s'agit des signes tachygraphiques, sténographiques, que connaît ton fils Dionysios, pour une période de 2 ans à partir du présent mois de Phaménote. Alors Phaménote, c'est un mois égyptien qui correspond grosso modo au mois de mars. Hein, il commence fin février et se développe sur le mois de mars. Donc, à partir du présent mois de Phaménote, de la 18e année de notre maître Antonin César. Les honoraires fixés entre nous s'élèvent à 120 drachmes d'argent, sans les gratifications pour les jours fériés. Alors, le texte grec emploie le terme de éortika. Éortika, ce sont les sortes d'étrennes qui étaient données pour les jours fériés. Tu en as reçu le premier versement de 40 drachmes. Tu recevras le second de 40 drachmes lorsque l'esclave aura assimilé le commentaire en entier. Alors, le commentaire, c'est une des parties de cet enseignement. Je reviendrai dans un prochain cours sur la tachygraphie et on rentrera dans le détail de cette formation. Tu recevras le troisième à la fin de la période, évidemment il faut comprendre la période d'apprentissage, lorsque l'esclave pourra écrire et lire sans faute n'importe quel texte de prose, à savoir les 40 drachmes restantes. Si tu achèves sa formation pendant la période impartie, je n'attendrai pas l'expiration du délai, étant entendu qu'il ne me sera pas permis de retirer l'esclave pendant la période, toujours d'apprentissage, et il restera auprès de toi, après cette période, autant de jours ou de mois qu'il aura été absent de son travail. Donc, vous voyez des clauses contractuelles, et on termine sur la datation, la 18e année de l'empereur César Titus Aelius Adrien Antonin Auguste le Pieux, le 5 Phaménote, et donc nous sommes sous Antonin le Pieux, le 1er mars 155. Alors, ici, l'apprenti n'est pas un enfant, mais un esclave que son propriétaire souhaite former à la tachygraphie afin qu'il puisse plus tard l'aider à mettre par écrit des textes qu'il lui dictera. C'est d'ailleurs une des tâches que les esclaves lettrés se voyaient usuellement confiées par leur propriétaire. On a de très nombreuses allusions aux esclaves qui copient sous la dictée des grands écrivains, notamment latins. On a énormément de textes à ce sujet. L'apprentissage durera, d'après ce texte, 2 ans, pendant lesquels l'apprenti restera auprès du maître, à moins que sa formation soit achevée plus vite que prévu. Le maître recevra des émoluments. Et alors, retenez dès maintenant le mot qui est utilisé, qui est « mistos », le salaire. Contrairement au contrat d'apprentissage de métiers artisanaux, où c'est l'apprenti qui touche un salaire de la part du maître, car l'apprenti, justement, l'aide à son activité. Et alors, cette différence capitale explique qu'on a pris l'habitude de distinguer, dans la catégorie des contrats de formation, de distinguer, d'une part, les contrats d'apprentissage, qui sont appelés en anglais « training » ou « apprentice contracts », en allemand « Lehrverträge », et de l'autre, les contrats d'enseignement, en anglais « teaching contracts » ou en allemand « Unterrichtsverträge ». On notera Enfin, que le salaire du maître est une somme assez élevée. Hein. Vous voyez, 120 drachmes, alors payé en trois fois, hein, 40, 40, 40. 120 drachmes, c'est une somme importante. Alors, vous allez me dire, mais ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond à ce que coûte une petite maison ou à ce qu'il faut pour entretenir une famille de quatre personnes pendant six mois. L'enseignement de la tachygraphie constituait donc, pour celui qui le dispensait, une bonne source de revenus. Alors, on ne peut que regretter de n'avoir que ce texte pour documenter les contrats d'enseignement dans le domaine de l'écrit, et plus encore de n'avoir aucun contrat de ce genre pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, puisque depuis la rédaction de l'article de Bergamasco en 1995, il n'y a eu aucun autre contrat de ce genre retrouvé et publié. Oui, on peut le regretter, mais c'est sans compter sur la bonne fortune papyrologique, la tuquée papyrologique. Eh bien, je suis en mesure de combler cette carence documentaire grâce à un papyrus inédit d'époque byzantine que j'ai repéré dans la collection de papyrus de Berlin et qui va nous permettre, par ricochet, d'identifier un second texte sur le même sujet qui était connu, lui, mais qui avait été mal interprété. Donc, on va faire un petit travail papyrologique. Ce texte, c'est un papyrus qui se trouve à Berlin, et qui provient des archives de Dioscore d'Aphrodite. Hein. Vous voyez où se trouve Aphrodite, hein, le village d'Aphrodite, donc on est en Moyenne-Égypte. Les archives de Dioscore d'Aphrodite, bon, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous en parler, puisque Dioscore est une grande figure de la papyrologie qui a laissé on a retrouvé dans la jarre de sa dans le cellier de sa maison une jarre contenant plus de 700 papyrus qui constitue le plus important ensemble papyrologique de l'Égypte byzantine. Et c'est en regardant le contenu de boîtes remplies de petits fragments de papyrus qui avaient été achetés à l'époque de la découverte de ces archives dans le musée dans le musée de Berlin que je suis tombé sur des petits fragments que j'ai pu raccorder et qui formaient un document assez court. Alors vous voyez que malheureusement, le document est il est très bruni, parce qu'il a subi l'humidité et donc il a eu tendance à se noircir. Et l'écriture est quasiment illisible. Mais heureusement, j'ai pu utiliser la photographie infrarouge, et voilà ce que ça donne avec la photographie infrarouge. Donc vous voyez que ça ressuscite le texte de ce papyrus. Alors, je vous en donne l'édition. Alors, ce texte est écrit de la main même de Dioscore. Je vous en donne l'édition à gauche et la traduction. Donc c'est toujours inédit. Hein. De la part de Dioscore, fils d'Apollos, petit-fils de Dioscore, à Jean, fils d'Acorios, Psephistès, alors je reviendrai sur le sens de ce mot, originaire de Lycopolis. Vous savez que dans un contrat, les parties s'identifient toujours par leur patronyme, mais aussi par ce qu'on appelle l'origo, c'est-à-dire leur provenance, leur cité ou leur village de provenance. Donc Dioscore est d'Aphrodite et Jean est de Lycopolis. Donc Jean, originaire de Lycopolis, et enseignant après Dieu de mon fils Pétros, salut. On retrouve toujours cette salutation qui débute les contrats. Je te dois, au titre du règlement complet de tout le salaire de mon fils susmentionné, 4 carats d'or, et je suis prêt à te les donner au mois de Pharmouti. Pharmouti, c'est fin mars, avril, jusqu'au 5 du mois de Pacon, c'est-à-dire le 30 avril, de la présente première indiction, qui est la fin de celle-ci et le début de la deuxième indiction. Alors, je reviendrai sur ce que sont les indictions. Le contrat est ensuite daté, écrit le 23 Phaménode, nous sommes le 19 mars. Et je reprendrai ce mien reçu, étant donné que je donnerai les carats en petite monnaie. Et là, malheureusement, on a un texte qui est raturé et que je n'ai pas pu réussir à lire. Au verso, vous avez écrit « Reconnaissance de dette de Dioscore, fils d'Apollos, au titre du salaire de Pierre, son fils ». Alors, vous voyez, par cette reconnaissance, qui est appelée techniquement en grec un pitakion, par cette reconnaissance de dette, eh bien Dioscore, fils d'Apollos, le protagoniste des archives dont je viens de vous parler, certifie devoir à un certain Jean de Lycopolis le complément du salaire mistos, et on retrouve ce terme de mistos, dû à son fils Pierre, élève de Jean, et s'engage à s'en acquitter le mois suivant ou au début de celui d'après. Alors, avant de revenir sur la situation que nous raconte ce papyrus et sur son intérêt pour le sujet qui nous intéresse, je n'ai pas oublié que je vous parle de l'enseignement professionnel, eh bien, il me faut rapprocher ce texte d'un autre qui appartient à la collection de Londres. C'est aussi un document des archives de Dioscore que son éditeur jugeait obscur. Alors, il est vrai que là, vous voyez l'encre, c'est aussi un problème de lecture, l'encre est devenue tellement pâle qu'il est quasiment impossible d'arriver à lire le texte. Alors, le premier éditeur, Bell, a proposé une édition. J'ai eu l'occasion de revoir ce papyrus à la British Library et d'orienter la lumière de façon oblique, de façon à faire mieux apparaître l'écriture, ce qui m'a permis de proposer un texte. Je vais y revenir. Alors, ce texte de Londres est un reçu par lequel un enseignant, il est question à la ligne 5, vous avez le verbe didaxai, qui est l'infinitif aoriste de didasco, enseigner. Donc, un reçu par lequel un enseignant reconnaît avoir reçu le salaire dû à son élève, un certain Pierre, fils de celui pour qui, justement, était mis le reçu. Alors, vous voyez que l'identité du fils ne laisse guère de doute sur le fait que nous avons affaire aux mêmes parties, mais là, dans un rapport inverse. Dans un rapport contractuel inverse, puisque c'est le maître qui s'adresse au père. Alors, je propose de corriger le texte de l'édition de la façon suivante. Voilà, le texte, j'ai mis en haut ma proposition de lecture. Et donc, je vous lis la traduction du début de ce reçu. Flavius Jean, fils d'Acorios, originaire de Lycopolis, à Dioscore, fils d'Apollos, originaire d'Aphrodité. J'ai reçu de toi au titre du règlement du salaire de ton fils Pierre, 3 carats, et malheureusement, la suite du texte est assez difficile à comprendre du fait des lacunes marginales. Alors, on constate que la date du reçu de Londres, c'est-à-dire 21 fameuse note 17 mars d'une 15e indiction, est très proche de celle du papyrus de Berlin qui est datée du 23 fameuse note, c'est-à-dire 19 mars d'une première indiction. Alors, comme dans le système de datation indictionnelle, les cycles sont de 15 ans. Alors, donc, une fois atteint, donc vous avez indiction 1, indiction 2, indiction 3, et une fois atteint l'indiction 15, on repart à 1, indiction 1, indiction 2, etc. Donc le papyrus de Londres est très vraisemblablement antérieur d'un an au document de Berlin, presque au jour près. Ce qui veut dire que Dioscore a eu recours au moins 2 ans de suite au service de ce Jean et, dans ce cadre, versé à son fils, et je reviendrai plus tard sur ce point, une somme appelée mistos, salaire, qui devait être complètement réglé en faménote. La deuxième année, celle du document de Berlin, Dioscore a dû ou préféré repousser d'un mois le versement de cette somme. Je suis prêt à te le donner au mois de Pharmoutie, etc. Pour des raisons qui nous échappent, d'où la reconnaissance de dette que constitue le papyrus de Berlin à gauche. Alors, le problème des indictions, c'est qu'elles ne sont pas datées absolument. Cette méthode de datation a été imposée par l'administration fiscale qui a cherché une autre façon de calculer le temps, un autre compute, plus léger que les longues datations régnales ou consulaires, plus pratique, plus en phase avec le rythme de la vie agricole et donc avec le règlement des impôts. Mais son inconvénient, pour nous, tient à l'absence de point de référence. Hein. Contrairement à l'année régnale ou consulaire, eh bien, l'indiction n'est jamais absolue puisque les cycles indictionnels ne sont jamais différenciés. Dans une indition, dans une datation régnale, vous avez tout de suite le nom de l'empereur. Donc là, l'an 3 de tel empereur, vous savez tout de suite ce que c'est. Mais l'indiction 3, ça ne veut rien dire. Ainsi, l'indiction 1, dans notre document, peut très bien correspondre. Là, je vous ai fait une table de toutes les correspondances entre les années indictionnelles et les années du calendrier julien. Ben, vous voyez que notre papyrus, par sa, nous savons que Dioscore est du VIe siècle, donc théoriquement, ça pourrait, alors l'indiction 1 pourrait très bien être 507, alors 507-508 parce que les années indictionnelles sont à cheval sur les années juliennes, 522-523, 537-38, 52-53, 67-68, 582-83, 597-598. Bon. Il nous faut donc trouver d'autres indices pour refermer la fourchette. Eh bien, c'est un troisième document de ces mêmes archives, les archives de Dioscore, qui est aujourd'hui au Caire, donc vous voyez, Berlin, Londres, le Caire, nous voyageons. Eh bien, il s'agit du papyrus 67309 des papyrus byzantins publiés par Jean Maspero. C'est ce papyrus qui va nous permettre de surmonter ce problème de datation. Il s'agit d'un prêt daté de mars 569, et il est contracté par un certain, je vous donne le texte, un certain Flavius Jean, fils d'Acacios et de la bienheureuse Marthe, perfectissime commis du bureau des comptes, hein, le bureau des comptes, ben c'est l'administration fiscale, et comptable de l'école, l'école d'Antinoopolis. En fait, le texte plus loin nous dit qu'il s'agit de l'école d'Antinoopolis, originaire de la clarissime Lycopolis, mais résidant depuis longtemps ici, dans cette magnifique cité des Antinoïdes, donc Antinoopolis. Donc vous voyez, l'origine lycopolitaine de ce genre, le fait qu'il travaille à l'école d'Antinoopolis, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il faille l'identifier aux gens de notre document de Berlin et de Londres. Ce qui permet d'ailleurs de corriger la lecture de Jean Maspero, hein, qui lisait le patronyme Acacios, mais en fait, il faut lire Acorios. Alors, malheureusement, le papyrus, vous voyez, est très endommagé, mais en fait, cette trace ici est tout à fait incompatible avec la lecture Acacios, et donc c'est bien Acorios qu'il faut lire. Ce texte date d'une seconde indiction, mais la datation régnale nous assure que nous sommes en 569. Voilà qui nous permet de dater notre document de Berlin du 19 mars 568 et celui de Londres du 17 mars 567. Alors c'est assez important pour notre histoire parce que à ce moment-là, Dioscore avait quitté son village d'Aphrodité et était parti s'installer à la capitale de la province de Thébaïde, Antinoopolis. Et pendant son séjour prolongé dans la capitale du duché, eh bien, il a dû faire face au problème de l'éducation de ses enfants. S'il est probable qu'il a pu assumer lui-même leur instruction élémentaire, comme j'ai essayé de le montrer dans mon cours il y a 3 ans, il a pu s'en remettre à des maîtres professionnels pour les niveaux supérieurs ou, disons, pour des formation spécialisée. Son fils Pierre devait être encore mineur, autrement dit, il devait avoir moins de 25 ans, et était donc placé sous la responsabilité de son père. Le texte de Berlin, pas plus que celui de Londres, ne spécifie la nature de l'enseignement reçu par Pierre. Petros en grec. Le terme de paidotès, qui est utilisé dans le papyrus de Berlin, le terme de paidotès, qui désigne Jean à la ligne 4, est vague, à ceci près qu'il appartient, un paidotès, c'est celui qui forme un enfant, païs. C'est un terme vague, à ceci près qu'il appartient au lexique de l'enseignement scolaire et non à celui de l'apprentissage. Dans les contrats d'apprentissage, c'est toujours didaskalos qui est utilisé pour le maître. Dans la seule occurrence papyrologique que nous avons de celle autre occurrence papyrologique que nous avons du mot Paidotès, il désigne un professeur de grammaire et de littérature grecque, mais ce sens précis tient aux déterminations du mot. Hein. Il est question de Hellenikon Logon, hein, question d'un grammairien, d'un professeur de lettres grecques. Alors, ici, nous n'avons pas de détermination qui nous permette de comprendre ce qu'il y a derrière ce terme de Paidotès. Il est possible, sur la base du papyrus, le troisième papyrus que je vous ai montré, publié par Jean Maspero, que cet enseignement ait eu comme cadre l'école publique d'Antinoopolis, puisque Jean y est dit Psephistes Paidoteriou tes Antinou, c'est-à-dire comptable de l'école d'Antinoopolis. Alors, cette dernière expression donne en fait la clé du contenu de la formation dispensée par Jean. Mais encore faut-il la comprendre correctement, car elle n'est pas sans ambiguïté. Puisque Psephistes signifie comptable, eh bien Jean devait être le comptable de l'école, profitant de sa profession en tant que commis du bureau des comptes, hein, donc l'administration fiscale, il faut bien connaître la comptabilité quand on travaille dans le fisc, comme à l'école publique, pour donner des cours de comptabilité. Mais dans la mesure où Psephistes est le synonyme du mot latin calculator, qui signifie, peut signifier maître de calcul, eh bien, notre Jean pourrait être tout simplement un professeur de calcul, professeur d'arithmétique et donc de comptabilité à l'école publique d'Antinoopolis. Alors, quelle que soit la solution que l'on choisit, il ne fait pas de doute que Jean a donné des cours de calcul ou de comptabilité au fils de Dioscore et que c'est à ce titre qu'il apparaît dans les documents qui le mentionnent. Alors, peut-on comprendre plus précisément, d'après cette reconnaissance de dette de Berlin et d'après le reçu de Londres, le type de rapport contractuel qui liait Dioscore à Jean? Alors, avant de répondre, constatons que le premier intérêt de ce petit dossier que je viens de vous présenter est de venir grossir le nombre de documents contractuels relatifs à la formation datant de l'époque byzantine, très réduit, hein, comme je vous l'ai dit, en comparaison des autres périodes. C'est même le seul, pour cette époque, qui documente une formation dans le domaine des arts libéraux. C'est en outre la première fois que la comptabilité est concernée, alors qu'elle était pourtant indispensable dans beaucoup de professions, notamment dans les professions d'intendant, de gérant de domaine, comme j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain cours. Alors, justement, je vous ai parlé du problème de la nature de la relation contractuelle qui lie Dioscore à Jean au sujet de la formation de son fils. Quelle est-elle ? Comme je l'ai rapidement signalé tout à l'heure, il est d'usage de distinguer les contrats d'apprentissage, hein, et les contrats d'enseignement, dont la pierre de touche est justement le bénéficiaire de la rémunération. Hein. Souvenez-vous, dans le premier cas, c'est l'apprenti qui touche un salaire versé par le maître. Dans le second, c'est le maître à qui le parent, le tuteur ou le curateur de l'élève verse le salaire. Alors, qu'en est-il, justement, dans le cas présent, avec Dioscore, avec Jean et Pierre? Tout dépend de l'interprétation que l'on donne à une expression que l'on retrouve dans le papyrus de Berlin et dans le papyrus de Londres. Il y est question du « mistos tou autou emou uyou », hein, le salaire de mon fils. Ça, c'est dans le papyrus de Berlin, que l'on retrouve dans le papyrus de Londres sous la forme de « mistou petrou tou uyou sou », le salaire de Pierre, ton fils. Alors, l'éditeur du papyrus de Londres, Harold Bell, se fondant sur le schéma que je viens de rappeler, hein, la différence entre les contrats d'apprentissage et les contrats d'enseignement, en arrive à la conclusion qu'il est probable, hein, je le cite, hein, vous avez le texte anglais à l'écran, il est probable que le mistos était en réalité une prime versée par le père de l'apprenti pour la formation, et que l'expression mentionnée ci-dessus signifie en réalité « mon salaire pour enseigner à votre fils ». Il en conclut donc qu'il s'agit d'un contrat d'enseignement, « teaching contract ». C'est la solution qu'adapte en dernier lieu Bergamasco. Cette interprétation, nous écrit-il en italien, semble la plus probable. Il est vrai, comme cela a été observé, que mistos signifie en soi la rémunération d'une personne. Néanmoins, nous ne pouvons pas comprendre la rémunération de votre fils que le maître verserait au père, car la lecture globale du fragment rend plutôt plausible son classement parmi les didascalicae qui prévoient une rémunération pour le maître. Pour le maître. Dioscore, qui écrit ce document, aurait-il commis une erreur en écrivant « salaire de Pierre » pour le salaire du maître pour les cours qu'il donne à Pierre ? Ça ferait beaucoup d'élisions, beaucoup d'ellipses. Outre qu'une telle erreur serait étonnante dans un document contractuel qui se doit d'être précis et clair, le papyrus berlinois confirme que l'expression du reçu de Londres n'est pas une faute. On retrouve exactement la même expression dans ces deux papyrus. Il me paraît impossible de considérer que mistos, le mistos d'un tel, puisse signifier salaire pour l'enseignement dispensé par, à un tel. Cette ellipse est vraiment trop brutale et trop ambiguë. On doit donc s'en tenir à une interprétation qui s'appuie sur la lettre du texte. Dioscore verse un salaire à son fils dans le cadre de la formation que suit celui-ci auprès de Jean. On a là un schéma qui est en total décalage par rapport à celui qui se dégage des autres contrats de formation. Hein ? C'est le père, normalement, qui verse, enfin ici, c'est le père qui verse un salaire à l'apprenti ou à l'élève, alors que c'est normalement au maître que revient cette obligation. C'est l'apprenti ou l'élève qui touche un salaire, alors que dans les autres contrats de formation, dans le domaine des arts libéraux, c'est toujours le maître qui reçoit un salaire. On pourrait a priori penser que la somme versée par Dioscore pour le salaire de son fils était en fait destinée à couvrir les frais de bouche, hein, ce qu'on appelle trophée en grec, ou les frais d'entretien, immatismos, les vêtements qu'on doit acheter, que le tuteur de l'apprenti prenait normalement à sa charge et que le maître aurait avancé. Mais ces frais ne sont jamais qualifiés de mistos, salaire, terme qui désigne la rémunération d'un travail. Serait-ce alors dans le cadre d'un contrat d'apprentissage où le salaire que devait verser le maître à l'apprenti est pris en charge par le père en vertu d'une obligation qu'il aurait contractée envers le maître ? Les rapports personnels entre Dioscore et Jean, dont témoignent d'autres documents coptes de mêmes archives, pourraient expliquer cette situation. On sait effectivement, au moins par une lettre, que Jean... Une lettre que vous avez à l'écran, une lettre en copte, où il est question d'un Jean qui a de fortes chances d'être identique avec le Jean commis du Logisterion, du bureau des comptes. Vous voyez qu'il apparaît exactement avec la même détermination. Et il signe donc cette lettre en grec, il cite cette lettre copte en grec, lettre qui est adressée au berger d'un village, qui n'est pas très loin d'Aphrodité, qui s'appelait Phtla. Lettre qui, malgré ses lacunes, semble montrer que Jean intervient dans une affaire qui oppose Dioscore au berger de ce village et dans laquelle il prend parti pour Dioscore contre les bergers. Donc Dioscore aurait-il profité de ses liens avec l'enseignant de son fils pour le gagner à sa cause et lui demander d'intervenir dans l'affaire qui l'opposait à ses bergers ? Ou inversement, a-t-il choisi Jean pour former son fils parce qu'il le connaissait bien ? Alors, la nature du mistos versé par Dioscore à son fils pourrait être aussi éclairée par des parallèles modernes. Je me suis laissé dire que dans l'Italie du Sud, du milieu du XXe siècle, eh bien, les parents pouvaient être amenés à payer un salaire à leur enfant mis en apprentissage, alors même que ce dernier pensait qu'il était versé par le maître de sa formation. Et ce qui est une façon, finalement, de responsabiliser l'apprenti et de lui donner l'impression qu'il entre dans la vie active et devient autonome vis-à-vis de ses parents. Alors, est-ce le cas ici ? il est extrêmement difficile de répondre. En tout cas, le fait que Dioscore doit payer un salaire à son fils n'exclut pas qu'il ait dû aussi verser une rémunération au maître Jean. Nos deux papyrus ne sont pas des contrats réglementant l'apprentissage ou la formation de Pierre, mais des documents concernant seulement un aspect de la transaction, le versement du contrat, du salaire de Pierre. Nous ne sommes donc pas renseignés sur les modalités exactes de la transaction les liant tous les deux au sujet de Pierre. Il semble d'ailleurs, en fait, si on regarde de près le document de Londres, qu'il y ait une allusion à la rémunération que Dioscore verse à Jean dans, à la ligne 6. Vous voyez, j'ai reçu les autres. Il est probable, c'est Jean qui parle, il est probable donc qu'il reçoit parallèlement au salaire que Dioscore verse à son fils Pierre, qu'il le maître reçoit lui aussi un salaire de la part de Dioscore. Alors, étant donné le caractère exceptionnel de ce petit dossier dans le panorama des contrats de formation à des arts libéraux durant l'époque byzantine, on ne peut que regretter la brièveté de l'un, les traits fragmentaires de l'autre, les informations sélectives que les deux nous fournissent sur les rapports contractuels entre le père d'un apprenti et le maître de cet apprenti. En tout cas, il est un cas rare de contrat d'enseignement spécialisé dans ou de texte, disons, éclairant un enseignement spécialisé dans un domaine, la comptabilité, où nous n'avons pas d'autres sources d'informations, si ce n'est à travers les exercices, comme nous le verrons plus tard. Alors, si le mot psephistès est à prendre dans le sens de maître de comptabilité, cela signifie que cet enseignement avait lieu dans une école publique de type classique. Mais s'il signifie comptable, eh bien, il est aussi possible que ce soit par hasard que cet enseignement ait eu lieu dans une école, puisque c'est là que travaillait Jean, mais il aurait pu avoir lieu dans n'importe quel établissement où Jean aurait exercé son activité de comptable. J'aurais tendance à privilégier la première hypothèse. Nos textes montrent en outre que le choix d'un maître se faisait parmi les relations des parents, en l'occurrence du père, ce qui s'explique par l'absence de filière formalisée. Enfin, en plus de la rémunération versée au maître, eh bien, les parents versaient une somme à l'apprenti qui, du fait de son nom, Mistos, était considéré comme un salaire, ce qui est une information tout à fait inédite et un des apports majeurs de ce dossier. Cependant, nous n'avons pas retrouvé dans les archives de Dioscore aucun contrat proprement dit qui aurait formalisé la relation du maître au père de son apprenti. Seuls subsistent des documents relatifs au versement du salaire, reconnaissance de dette et reçu. Alors, est-ce à dire que Dioscore aurait engagé Jean sans passer par la rédaction d'un contrat? C'est bien possible et cela expliquerait la quasi-absence de tels documents dans la documentation de notre époque. Les accointances entre Dioscore et Jean permettraient de s'en passer, surtout si, durant cet apprentissage, Pierre aidait Jean, ce qui obligeait Jean vis-à-vis de Dioscore, tout autant que Dioscore était obligé vis-à-vis de Jean. Alors, la rareté de tels documents est, loin s'en faut, l'unique raison pour laquelle l'éducation professionnelle est mal connue aujourd'hui. Nous verrons la semaine prochaine, que les préjugés en vogue à l'époque pouvaient expliquer qu'elles se situent dans un angle mort de la recherche. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.